Chapitre 34. Alors que les trois galères s'apprêtaient à mouiller pour la nuit, Bannon s'acharnait toujours à briquer le pont. Depuis un bon moment, il n'y avait plus la moindre trace de sang ou d'immondice, mais personne n'avait cru bon de le relever de sa corvée. Enchaîné au bastingage par une cheville, ça faisait des heures qu'il travaillait à genoux, les mains à vif à force de serrer le manche de sa brosse. Plusieurs autres esclaves, dont le maussade Eric, était attaché non loin de là et forcé à le regarder. S'il parvenait à se libérer, Bannon se jetterait dans le fleuve, ça ne faisait pas un pli. En nageant vite, il pourrait se cacher dans les roseaux, à condition d'arriver jusque-là. Avec leurs lances et leurs harpons, les Norokai étaient très doués. Un fer barbelé entre les omoplates, on n'allait pas bien loin. Une fin qui n'aiderait pas Eric et les autres. Et il fallait trouver une meilleure idée. Dans la pénombre, le jeune escrimeur distingua des flammes assez loin devant lui. Puis, il entendit des roulements de tambour et une voix de femme qui défiait les esclavagistes. Dès que la galère fut un peu plus près, Bannon reconnut une Morassite. « Lila ?»« Non, ce n'est pas sa voix. En revanche ?»« Oui, c'était ça. Adessa, l'impitoyable chef des Morassites qui lui avait fait vivre un calvaire dans les fosses de combat d'Ildakar. Alors que Yann était son amant, elle l'avait tué devant les yeux de Bannon pour éviter qu'il se rallie à lui, un crime qu'il ne lui pardonnerait jamais. Et voilà qu'elle défiait Calvaire en duel. Certes, il détestait cette femme, mais certainement pas plus que l'ignoble maître de Crayeux. Les esclavagistes se gossaient de ce défi, mais ils avaient tort de sous-estimer la Morassite. Une erreur grossière. Quand deux pillards furent partis chercher Adessa en canot, trois ou quatre autres vinrent vérifier les entraves des prisonniers. Le prenant par les cheveux, Gara tira Bannon puis le força à s'asseoir près des autres esclaves.
« Assez briqué pour aujourd'hui, mais ne te fais pas d'illusions, tu recommenceras demain. »
Gara ligota les poignets de Bannon et s'assura que le fer était bien fermé sur sa cheville. Distraite, elle lorgnait sans cesse la proue où Calvaire attendait l'arrivée de sa future adversaire. Crayeux accourut et s'accroupit à côté de Bannon.
« Elle défie le roi Calvaire. Pour elle, ce sera un calvaire. »
Il se pencha pour parler à l'oreille du jeune escrimeur.
« Du sang sur le pont, frotte, frotte, tu vas voir. »
L'albinos fila vers la proue où Adessa et Calvaire se faisaient désormais face. Après l'avoir sorti d'un sac, la Morassite posa sur un tonneau ce qui restait d'une tête humaine. Malgré la décomposition, Bannon reconnut le sorcier en chef Maxime.
Douce mère la mer.
À la lueur des lanternes, des Norokai accoururent, résolus à ne rien manquer du spectacle qu'ils pressentaient très bref. Dans un éclat de rire, Calvaire leva sa hache et Adessa se mit en garde. Le cercle de Norokai lui bloquant la vue, Bannon n'aurait su dire qui prenait l'avantage. Sur la galère, pas un seul esclavagiste ne s'intéressait à autre chose qu'au duel. Les esclaves, eux, se recroquevillaient sur eux-mêmes parce que ne pas se faire remarquer restait une des clés de la survie. Malgré les encouragements bruyants des Norokai, Bannon capta un petit bruit montant du fleuve. Un peu plus tard, un nouveau son lui indiqua que quelqu'un gravissait lentement une des échelles extérieures. Quand une silhouette enfourcha le bastingage pour retomber souplement sur le pont, le jeune escrimeur n'en crut pas ses yeux. Le corps parfait, la peau couverte de runes, les six beaux yeux. Cette fois, c'était Lila. Malgré la chaîne, Bannon aurait bien aimé sauter de joie, mais la Morassite le foudroya du regard puis lui intima le silence. À la proue, un bruit métallique annonça que le duel était commencé.
« Que fais-tu ici ?»
demanda Bannon, le cœur gonflé d'espoir.
« Pas de questions idiotes, mon gars. Je viens te libérer, ça va sans dire. »
Adessa affrontait Calvaire, un adversaire encore plus laid que les monstres qu'elle avait tués dans l'arène d'Ildakar. Avec ses implants osseux et sa large bouche, le roi se croyait sans doute très beau, mais il était bien le seul à le penser. En tout cas, ça donnait à la Morassite une raison de plus d'avoir envie de le tuer, la mission qu'elle s'était engagée à accomplir. Ainsi, grâce à sa diversion, Lila pourrait libérer son jeune gladiateur. Cerise sur le gâteau, envoyer Calvaire chez le gardien serait un honneur et une joie. Chargeant l'esclavagiste, la Morassite abattit sa lame avec un cri qui lui vida pratiquement les poumons. Véritable montagne d'hommes, Calvaire avait un torse de bûcheron et des muscles assortis. Sa hache de guerre, il la maniait comme s'il se fût agi d'un couteau de poche. Malgré sa taille et sa corpulence, il se révéla aussi très vif et esquiva sans peine la première attaque d'Adessa. Emporté par son élan, puisque sa lame fendit l'air, la Mauracite perdit un instant l'équilibre. Alors qu'elle se rétablissait, Calvert la frappa à la tempe avec un énorme poing renforcé de fer. Elle entendit sonner des cloches, mais parvint à s'écarter de la trajectoire du coup de hache qui suivit. Au cri de joie des Norokaïs, Adessa comprit qu'ils étaient sûrs de sa défaite. Trônant sur son tonneau, Maxime regardait la scène avec ses yeux pourris. Dans sa tête, Adessa l'entendait la narguer, mais aucun mot ne sortait de ses lèvres. Il était bien trop pervers, ce salopard. Si quelqu'un d'autre attestait qu'il parlait, plus moyen de faire croire à sa victime qu'elle était folle. Oui, dans son esprit, il riait encore plus fort que les Norokaïs, ce monstre. Pour le faire taire, elle secoua la tête comme pour chasser un moustique insistant. Avec sa lame, elle para un coup de hache. Même si son épée était très courte, la manœuvre suffit à dévier la trajectoire de l'arme. Le coup passé, la Mauracite tira parti de sa plus petite taille pour se glisser sous la garde du roi et d'un coup de pied sauter au ventre, lui couper un instant le souffle. Furieux, Calvert mania sa hache comme une massue, sans finesse, mais assez vite et fort pour manquer d'un souffle faire mouche. Alternant Ladzi et sifflet, les Norukai narguaient Adessa en la bombardant de petits fragments gluants qui lui collaient à la peau. « Des entrailles de poisson », s'avisa-t-elle. Dans l'arène, c'était une tactique classique pour perturber un gladiateur. La réponse consistait à ne pas se laisser déconcentrer. À Ildakar, elle avait tué des ours de combat, des loups à pic et des panthères du désert. Si on considérait froidement les choses, Calvert était un monstre comme les autres, et rien de plus. Une nouvelle passe d'armes s'acheva sans résultat probant. Pour le moment, aucun des deux ne parvenait à blesser l'autre. L'albinos, un chaman selon Lila, passa sa tête entre deux spectateurs, puis il disparut de nouveau. La seule vue de cet avorton glaçait les sangs, mais Adessa devait se concentrer sur Calvert, tout en gardant un œil sur le public parce qu'elle doutait que les Norokaïs fassent grand cas des règles de l'honneur. Le roi grogna comme si le poids de sa hache finissait quand même par le fatiguer un peu. Sa botte glissant sur quelque chose, peut-être un morceau d'immondice expédié par un esclavagiste, il chancela une fraction de seconde. Presque rien. Mais assez pour qu'Adessa saisisse l'occasion au vol. Frappant d'estoc avec sa lame pour forcer Calvert à se défendre, elle referma la main gauche sur le manche de sa pointe douleur. L'arme secrète des Mauracites, capable d'infliger une souffrance effroyable à leur victime. Au moment où elle chargeait, Calvert avait déjà retrouvé son équilibre. Avec sa hache, il para le coup d'épée, comme prévu, mais il ne remarqua pas l'insignifiant poinçon que son adversaire serrait dans l'autre main. Adessa frappa à la manière d'une guêpe qui enfonce son dard dans une cible. Fine comme une aiguille et très courte, l'arme n'infligea pas de graves blessures, mais ça n'était pas l'objectif. À travers son gilet en peau de requin, Calvert ne sentirait même pas un élancement, jusqu'à ce qu'Adessa pose le pouce sur la rune centrale et active la magie. Quand ce fut fait, un spasme de souffrance traversa tout le corps du maudit roi des Norokaïs. En réponse, il se tétanisa, tous ses muscles dorsaux assez tendus pour risquer de lui briser la colonne vertébrale. Ouvrant son ignoble bouche, il lâcha un cri assez déchirant pour faire sursauter les spectateurs, pourtant habitués à toutes les horreurs. Adessa continua à dispenser de la souffrance au roi, comme si l'entendre brailler l'amusait. Avec sa pointe douleur, elle avait forcé ses gladiateurs les plus durs à implorer pitié, des larmes aux yeux. Pour vaincre, il suffirait de continuer à torturer Calvert. À cet instant, la tête de Maxime éclata de rire. Les lèvres noires bougèrent et la voix tant détestée lança « Tu ne le battras pas. Viens me rejoindre chez les morts, chère Adessa. C'est là qu'est ta place. » Ces mots minèrent la confiance de la Mauracite. Autour des duellistes, les Norukaïs braillaient, exigeant du sang. Sentant que Calvert essayait de se dégager, Adessa appuya plus fort sur sa pointe douleur. « Tu es faible, Adessa, » grinça Maxime. « Et tu le sais.
Tais-toi » Tais-toi !»
cria la Mauracite en foudroyant du regard le crâne hideux. L'instant de déconcentration fatale. Même avec la pointe douleur dans la chair, Calvert réussit à saisir le poignet gauche de son adversaire et à le plier avec une force sûrement augmentée par la souffrance. Les os cédèrent.
Sa main quasiment broyée, l'avant-bras éclaté, Adès a senti déferler en elle une douleur qu'elle n'aurait pas cru possible. Dans son brouillard, elle entendit de nouveau la voix moqueuse de Maxime. Calvaire arracha la pointe douleur au doigt brisé de son adversaire. Adès tenta de lever son épée, mais le colosse la percuta comme un taureau furieux. Quand elle s'écrasa sur le pont, sa tête heurta violemment le bois et la souffrance augmenta encore. En guise de défense, elle leva un genou, mais le roi disposait d'une pointe douleur à présent. Faute de magie, il ne pouvait pas activer le sortilège, et la lame seule ne faisait pas grand mal, sauf quand on l'enfonçait plusieurs fois dans la gorge d'un vaincu, en visant d'abord la carotide, puis en déchiquetant le reste avec des mouvements latéraux. Adès sentit du sang chaud couler sur sa gorge. Presque distraitement, elle nota que sa résistance faiblissait. Calvaire continuait à frapper comme un boucher qui attendrit un morceau de carne. Très vite, le coup d'Adès ne fut plus qu'une infâme bouillie. Sa rage encore intacte, le roi s'en prit à son visage et insista longuement après qu'elle eût succombé. Alors, il rugit de triomphe. Dès qu'il reconnut Lila, Bannon comprit qu'il avait toujours su qu'elle viendrait. Son optimisme, comme d'habitude. Alors qu'Adessa et Calvaire en décousaient à la proue, la Maurassite se précipita vers le prisonnier. Stupéfié, celui-ci vit qu'elle avait une épée attachée dans le dos. Mais pas n'importe quelle épée! Solide! Pour la première fois depuis des jours, Bannon éprouva de la joie. Lila coupa la corde qui lui entravait les poignets, puis elle s'attaqua au fer à sa cheville. Pendant qu'elle travaillait, Bannon lui souffla « Tu dois aussi libérer les autres, ce sont mes amis !» Les esclaves grognèrent. Certains étaient paniqués, d'autres désorientés, et Eric, lui, tirait sur ses chaînes. Lila leva les yeux sur Bannon.
« Je n'aurai pas le temps, mon gars. Mais cela, je n'ai pas juré de les protéger, c'est toi que je viens sauver !»
Le fer ne cédant pas, Lila remonta jusqu'à l'endroit où la chaîne était attachée, et avec son couteau, elle essaya de déloger la fixation. À la proue, des rugissements retentirent. Du coin de l'œil, Bannon vit qu'Adessa était tombée. Se jetant sur elle, Calvaire commença à la frapper et du sang gicla partout.
« Douce mère, la mère, il va la tuer !»
Lila se pétrifia, incrédule. « Adessa, perdre un duel ?» Hésitant un moment, elle s'attaqua de nouveau à la chaîne.
« J'espérais avoir plus de temps. »
À la proue, Calvaire s'acharnait toujours sur sa victime.
Bannon tendit la main. « Donne-moi solide, je veux être utile !»
Les Norokai célébraient à présent la victoire de leur roi. Pourtant, une silhouette approchait des esclaves. Dès qu'il aperçut Lila, l'albino sauta comme un cabri en écartant les bras.
« Un autre poisson ! Nous avons attrapé un autre poisson !»
Malgré le vacarme, quelques esclavagistes entendirent et tournèrent la tête pour voir ce qui se passait. Lila tira sur la chaîne. Ne parvenant pas à l'arracher, elle oublia toute prudence et s'attaqua à coups de couteau au bois qui entourait la fixation. Histoire de l'aider, Bannon tira lui aussi sur la chaîne. Crayeux, lui, continuait à couiner.
« Venez, venez, un nouveau poisson, vite !»
Lila se redressa d'un bond et frappa le chaman au visage pour le faire taire. Comme s'il venait d'être percuté par un cheval au galop, l'avorton vola dans les airs, s'écrasa sur le plancher à 5 pas de là et porta une main à ses lèvres éclatées. Puis... il se roula en boule et gémit. À le voir ainsi, Bannon éprouva une étrange culpabilité. Mais il la repoussa car l'heure n'était pas à ça. À la proue, éclairée par les lanternes, la tête du sorcier en chef commença à émettre une lueur verdâtre. Ses yeux pourris brillèrent et ses lèvres bougèrent comme s'il essayait de sourire. Puis, un rire de démon monta de la gorge qu'il n'avait plus. Un rire moqueur qui terrifia même les impitoyables esclavagistes. Bannon lui-même en eut des frissons glacés. Les Norokai reculèrent, le souffle court. Puis, ils observèrent la tête. Quand son hilarité se fut calmée, le peu de chair qui restait à Maxime fondit et coula sur le couvercle du tonneau. Ensuite, ses os s'émiettèrent en une infinité de fragments. Attirés par les brailleries de Crayeux, des Norokai déboulèrent à la poupe. Dès qu'ils virent Lila, ils donnèrent l'alerte et d'autres pillards vinrent les rejoindre. Lila dégaina solide et se mit en garde. Comme dans l'arène face à un monstre, elle se prépara à vendre chèrement sa peau. Les pieds calés contre le bastingage, Bannon continua à tirer sur la chaîne sans aucun résultat. Eric et les autres tentaient aussi de se libérer. « S'ils luttaient tous ensemble, se dit Bannon,
Quelques-uns d'entre eux pourraient peut-être réussir, mais les Norouka y étaient si près.
Couvert du sang d'Adessa, Calvert déboula le premier. Dès qu'il vit Crayeur recroquevillé sur le sol, il rugit de rage. À l'évidence, Lila se préparait à affronter les Norouka. À ses yeux, la notion d'échec n'existait pas, mais Bannon la ramena à la réalité.
« Tu vas y laisser ta peau, Lila. Tu ne peux pas me sauver. »
C'était ce qu'il fallait dire. Et cette fois, Bannon ne faillirait pas. Lila tenta d'abord de nier la vérité, puis son expression changea. Son compagnon avait raison.
« Pas cette fois !»
lâcha-t-elle entre ses dents serrées. Tandis que les Norouka chargeaient, bavant de haine, la Morasite fit un serment.
« Je reviendrai pour te tirer de là, mon gars !»
Sur ces mots, elle sauta par-dessus le bastingage et disparut. Très vite, un plouf apprit à Bannon qu'elle serait bientôt en sécurité. Sans se soucier des esclaves, les Norouka saisirent des lances et des harpons et vinrent sonder l'eau en quête d'ondulation. Comme si Lila était un poisson-chat, certains lancèrent leurs armes. En vain, aurait parié Bannon. Ces monstres ne tueraient pas Lila et elle reviendrait bientôt pour le secourir. L'air affolé, Calvert s'accroupit près de Crayeux et le prit dans ses bras. Toujours en état de choc, l'albinos porta une main à son visage tuméfié. D'une main souillée de sang, Calvert toucha délicatement la joue enflée de son ami.
« Crayeux, pardonne-moi. J'aurais dû te protéger. Comment ai-je pu ne pas comprendre que ce duel était une diversion? Ces femmes nous ont tendu un piège. »
Le roi se leva, foudroya du regard Bannon et remarqua qu'il avait les mains libres.
« Cette Morasite a blessé mon vieil ami. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. »
Le poing du colosse s'écrasa sur le visage de Bannon, manquant de peu lui déboîter la mâchoire. Sonné, le jeune escrimeur s'écrasa contre le bastingage, puis il glissa mollement sur le pont.
« Tu mérites de mourir !»
siffla Calvert.
« Mais avant, je te ferai très mal !»